Jean-Christophe Buisson et Emmanuel Hecht pour les grands vaincus de l'histoire. C'est aux éditions Perrin, donc on va se pencher sur ce que l'on pourrait appeler l'art de perdre. Et c'est vrai qu'on se rappelle souvent des vaincus, peut-être plus que des vainqueurs. Alors vous avez réuni combien de perdants, de grands perdants ?
13, parce que c'est un chiffre qui porte la poisse. Non, en fait, c'est un peu le hasard qui fait qu'on en a choisi 13. L'idée était de prendre des personnages à travers l'histoire, c'est-à-dire qu'on commence dans l'Antiquité avec Hannibal et Cléopâtre, et on termine dans la période contemporaine avec Nixon. L'idée était aussi de faire un panorama mondial et non pas seulement franco-français, puisque l'Afrique, l'Amérique, je viens de le dire, l'Europe aussi, bien sûr, l'Asie avec Chiang Kai-shek sont évoqués.
Alors je dirais qu'il y a un absent, c'est Napoléon. Pourquoi ?
Oui, il y a beaucoup d'absents, pour être très franc. Parce que Napoléon a été énormément vainqueur avant d'avoir été vaincu. Et c'est vrai qu'il y a eu tellement de livres à son sujet. On aurait pu faire aussi des monstres du XXe siècle comme Hitler ou Staline. Hitler qui a fini par être vaincu. Donc c'était vraiment un choix arbitraire. Mais l'idée était aussi de montrer différents types de caractères à travers ces 13 personnages, différentes manières de perdre. Et encore une fois d'être le plus complet dans l'histoire, dans les époques et dans la géographie, et puis aussi dans l'après-défaite. Ce qui nous a paru intéressant, c'est aussi de raconter ce qui se passe lorsqu'on a perdu. Certains sont considérés comme des vaincus pour l'histoire définitivement. Cléopâtre encore aujourd'hui jouit d'une mauvaise réputation qui a été écrite par les vainqueurs, par les Romains, mais qui s'est maintenue jusqu'à nos jours, alors que d'autres, ce qu'on oublie souvent, c'est que Jeanne d'Arc par exemple, pendant des siècles on ne s'est pas intéressé à elle, c'est seulement au 19e siècle grâce à Michelet que son image a été restaurée. Donc parfois des vaincus deviennent presque des vainqueurs dans l'histoire postérieure. Donc c'était aussi ce type de... Et Napoléon, bien malin, qui pourrait dire si aujourd'hui il a plus l'image d'un vaincu ou d'un vainqueur. En fait il a la double image selon que vous voulez retenir les centaines de milliers de morts par sa faute ou au contraire les constructions et la rénovation, la modernisation de l'État français dont il est le responsable.
Alors vous parliez d'Hannibal, de Vercingétorix, de Cléopâtre, de Jeanne d'Arc également, mais il y a aussi le duc de Guise, le grand Condé, Charette, le général Lee, Trotsky, Chiang Kai-shek, Che Guevara, Nixon, vous l'avez cité aussi. Qu'est-ce qui les rassemble dans ce mot de l'art de perdre ? Parce que finalement, perdre, c'est quelque part aussi un art.
Oui, c'est un art, mais qui peut être involontaire, si vous voulez. On peut parler d'art en ce sens qu'il y a quelque chose de très romanesque. Et donc leur histoire devient de l'art en ce sens, mais on ne peut pas dire qu'ils aient façonné leur propre défaite. Ou alors s'ils l'ont façonné, c'est involontairement, par orgueil, par démesure, par surdité au conseil des uns et des autres, par incapacité à un moment donné de choisir précisément le moment opportun pour lancer telle ou telle opération. Il y a tout ce faisceau, si vous voulez, de conditions qui entrent en compte dans la défaite de ceux qui ont été, ou de celles qui ont été, de grands hommes ou de grandes femmes.
Et moi, je crois que ce qui les rassemble aussi, c'est le fait, encore une fois, d'avoir été vainqueur avant d'avoir été vaincu. Et que parfois, la gloire qui rejaillit sur vous lorsque vous êtes un vainqueur vous pousse à prendre des décisions d'aller au-delà de ce que le bon Dieu ou le destin vous a promis. Et tous, à un moment donné, ont gagné militairement, politiquement, ont eu des victoires, que ce soit Hannibal qui est allé jusqu'à menacer Rome, ou Cléopâtre qui se voyait le successeur d'Alexandre, et de unir l'Orient et l'Occident par son mariage avec les Césars, le duc de Guise qui se voyait quasi roi de France, Charette qui envisageait de jeter les républicains hors de Vendée. Tous ont remporté des victoires et tous à un moment donné sont allés peut-être trop loin dans leur victoire et ont fini par être vaincus par plus fort qu'eux, par le destin, par un meilleur rival. Donc c'est ça qui les unit, je crois, c'est d'avoir été vainqueur et d'être allé trop loin dans la victoire.
Est-ce que parmi ces 13 personnages dont vous narrez la mésaventure, on pourrait dire, est-ce qu'il y en a un ou deux qui vous ont semblé être plus, je dirais peut-être plus poignants dans leur défaite ?
Oui, il y a le général Lee, mais Jean-Christophe en parlera mieux que moi. Je pense aussi au grand Condé, parce que, si vous voulez, c'est un homme, d'une, sans jeu de mots, d'une grande noblesse. C'est un prince du sang, donc si vous voulez, il est très... ça veut dire qu'il a du sang de Saint-Louis, donc il peut être monarque à son tour. Mais si vous voulez, c'est un extraordinaire soldat, à 22 ans, il remporte une victoire décisive à Rocroi. Et si vous voulez, c'est un homme de liberté, c'est un homme de conviction qui va jusqu'au bout. Alors on peut considérer que c'est un peu suicidaire, mais si vous voulez, il y a quelque chose de magnifique dans l'orgueil démesuré.
On dit quelques mots du général Lee.
Oui, le général Lee, c'est l'homme qui a tenu tête, c'est le général sudiste qui a tenu tête aux armées nordistes du général Grant et de ses prédécesseurs pendant 5 ans. Il a quand même épuisé 5 généraux nordistes avant qu'on vienne à bout de son armée, qui est une armée presque de va-nu-pieds, de misérables, en référence au livre de Victor Hugo qui avait été reçu avec beaucoup de sympathie aux États-Unis et qui, au nom de sa famille, de ses traditions, de ce Sud qu'on voit très bien dans le roman puis le film Autant en emporte le vent, refuse d'accepter la loi fédérale et prend la tête d'une rébellion, mais sans être heureux de le faire. Il sent bien que c'est une guerre civile atroce, et lorsqu'il va finir par être obligé de se rendre aux armées nordistes, l'élégance avec laquelle il rend les armes pousse son vainqueur, le général Grant, à le saluer lorsqu'il remonte sur son cheval et qu'il repart comme un vaincu qui a vraiment l'air d'un vainqueur. Donc ce destin est assez poignant comme celui effectivement du grand Condé, qui finit par être exilé dans son propre pays, qui est couvert d'honneur pour lui faire oublier qu'il a failli renverser la monarchie, renverser Louis XIV au moment de la Fronde et dans les années suivantes. Donc ces hommes-là sont des vainqueurs, mais qui dans l'histoire restent des figures nobles.
Merci Jean-Christophe Buisson et Emmanuel Echt, dont je rappelle le titre de ce livre, Les grands vaincus de l'histoire, aux éditions Perrin, l'histoire vue par la petite lorgnette des vaincus. Merci à vous.
Merci.